Shalom Ouvracha, Shalom Ouvracha, Erev Tov les Koulam, Erev Tov. Et voilà, on est mardi, et donc comme tous les mardis, eh bien on se retrouve pour de nouvelles aventures, j'ai envie de dire, pour une nouvelle étude de la Neshama de la Mishnah, chapitre 3. Alors, juste avant de commencer, comme d'habitude, je vais juste attendre de votre part un tout petit signe qui me dit que je ne me parle pas à moi-même. Est-ce que on m'entend bien? Est-ce qu'on peut commencer? Voilà, que quelqu'un me fasse signe et comme ça, eh bien, on commence. Super, c'est bon, tranquille, j'ai eu mon signal. Alors, c'est parti. La Neshama de la Mishnah, Nishmata Mishnah, chapitre 3. Et aujourd'hui, alors le titre de notre cours s'appelle « Le Shabbat mondial ». Et donc, aujourd'hui, je vous emmène, on est parti de Maseret Brachot, on sort de Brachot et on va arriver dans la Maseret Shabbat. Donc, nous, ceux qui veulent prendre le texte, Maseret Shabbat. On va se concentrer la majeure partie du temps sur le chapitre 7, Mishnah 2. Mais juste avant de rentrer dans le chapitre 7, Mishnah 2, on va ouvrir notre étude avec une petite chose sur la première Mishnah de Maseret Shabbat. Une toute petite chose qui va en fait être notre introduction à notre étude du chapitre 7, Mishnah 2. Donc, j'ouvre la Mishnah dans Maseret Shabbat, première Mishnah. Et en fait, je veux ouvrir notre étude avec ça, l'Eilui Nishmat de notre maître à tous, du Rav Ashkenazi Manitou, parce que c'est un enseignement qui lui tenait énormément à cœur. Et donc, comme on vient de sortir de la Hiloula de Manitou, eh bien, je voulais ramener cette petite chose en son nom. La Mishnah dans Maseret Shabbat, et en fait, c'est exactement le thème, c'est exactement de cela qu'on parle. Il faut se rappeler que la Mishnah n'est pas seulement un enseignement de la Halakha, mais c'est au-delà de cela, la Mishnah révèle la Neshama de ce qu'il y a derrière. Et donc, quand on regarde le texte de Maseret Shabbat, eh bien, on va se rendre compte que la première Mishnah nous dit comme ça. Yetziot ha-Shabbat shtaim shem arba bifnim ou shtaim shem arba bachutz. On nous parle de Yetziot ha-Shabbat. Et tout de suite, il faut se poser cette question. Et ça va être... faut pas dire chapitre 3, ça prête à confusion. Tu as raison, ne disons pas chapitre 3, épisode 3. Tout à fait, j'entends, j'en prends bonne note. Bekitsour, donc nous sommes dans notre Mishnah. La première Mishnah, donc, de Maseret Shabbat, nous parle de Yetziot HaShabbat. On va se concentrer, nous, ce soir, dans les différentes Melachot de Shabbat. Très bien. Mais la question préliminaire, c'est comment ça se fait que la Mishnah va ouvrir... j'ai pas de problème qu'elle ouvre sur une des Melachot. Mais pourquoi elle ouvre sur la Melechet Otsa'a? Pourquoi est-ce que c'est ça la Mishnah numéro uno de Maseret Shabbat? Ça va être la réponse qu'on va donner à la fin de notre étude. Mais avant cela, ce qui m'intéresse, c'est regarder comment la Mishnah est construite. On nous dit Yetziot HaShabbat Shtaim Shem Arba Bachutz Ve'esh Bifnim Ve'Shtaim Shem Arba Bachutz. Et là, on nous dit Keitzad. Comment ça marche? Et Ani Omed Bachutz ou Balabait Bifnim. C'est-à-dire, on nous parle de la différence qu'on ferait entre un Ani, entre un pauvre, et le Balabait. C'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit Aish Omed Bifnim va Aisha Bachutz ou Aisha Bifnim va Aish Bachutz? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait la différence entre Tsaïr et Zaken? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait la différence entre Eved et Rabo? Pourquoi est-ce qu'on nous a dit Ani Vebalabait? Quand on lit la Mishnah simplement dans une lecture halachique, eh bien, on lit tout de suite Ani, comment ça marche? Et Ani, Omed Bachut, Vebalabait Bifnim, Pashat Ani et Yado Lifnim, Venatan le Toch Yado Shel Balabait, Oshe Natan Betocha Veotzi, Ani, Chayav. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? La Mishnah est en train de nous dire, mais Rabotai, tu n'as pas bien compris l'idée. L'idée n'est pas de savoir seulement techniquement comment ça marche Melechet Otsa'a. Est-ce que le Hani, il a le droit d'être Bachout, mais il rentre sa main, il ne rentre pas sa main? Tout ça, c'est vrai, halakhiquement parlant. Et il faudra étudier la halakha. Mais il ne faudra pas oublier une chose. Manitou disait, il faut lire la Mishnah d'abord comme un juif. Un juif, il n'existe pas de réalité pour lui, ou si c'est Shabbat, Yesh Ani Bachoutz. La Mishnah va nous dire, on te propose que le Ani soit Bachoutz et que le Balabait soit Bifnim, et on te propose des façons de gérer, genre lui met la main, mais dans tous les cas proposés par la Mishnah au début, le Ani, le pauvre, il reste dehors, et le Balabait, il reste Bifnim. Après, on te dit peut-être que il faut faire sortir le Balabait Bachoutz. Mais donc on laisse le Ani Bachoutz. La Mishnah, techniquement, elle va nous dire que le seul moyen pour que les deux, que ce soit Besseder, Moutar, il faut faire rentrer le Ani Bifnim. Et en fait, Manitou, il disait, il faut lire la Mishnah de la sorte. Yetziot à Shabbat, Shtaim Shem Bachoutz. Arba. Shtaim Shem Arba, c'est pas Bachoutz, mais Shtaim Shem Arba Bifnim. Et là, on te dit, Keitzad Ani Omed Bachoutz Vebala Bait Bifnim. Pas avec un point d'interrogation. Keitzad, comment ça marche les Yetziot à Shabbat? Et là, comment c'est possible? Keitzad Ani Omed Bachoutz Vebala Bait Bifnim. Comment c'est possible, si tu as compris ce que c'était Shabbat, qu'il y a un cas où le Ani il est dehors et toi tu es dedans? Comment c'est possible que tout de suite tu ne l'as pas fait rentrer chez toi? Parce que c'est de ça qu'on parle pendant Shabbat. Et donc, il est fondamental que tu comprennes les bases du Shabbat. Les bases du Shabbat, c'est un temps de rencontre. Et c'est pour cela que maintenant, on va pouvoir rentrer dans notre Mishnah qui nous intéresse ce soir. Perek, Zayin, chapitre 7, Mishnah 2. Donc voilà, je laisse une seconde pour que tout le monde puisse prendre le chapitre en question. Donc, Maseret Shabbat. Mishnah Zayin, Perek Zayin, Mishnah Bet. C'est une Mishnah qui est très connue. C'est une Mishnah qui est très connue, mais il va falloir qu'on la décortique et qu'on sorte la Neshama qui s'y cache. Je lis tout d'abord la Mishnah. Avot Melachot, Arbaim Chaser Echad, Azore Ava Choresh Va Kotzer Va Me'amer Adash Va Azore Aborer Atochen Va Meraked Va Lash Va Ofe. הגוזז את הצמר, המלבינו והמנצבו ולפצו זכר והצובעו והטובה והמסר והעושה שני בתנירים והעורק שתי חוטים והפוצע שתי חוטים והתופר שתי תפירות והקורא על מנת לתפור שתי תפירות הצד את הצבי, השוחתו והמשפשיתו והמולכו והמאבד את אורו והמוחקו והמותחו הכותב שתי אותיות והמוחק על מנת לכתוב שתי אותיות הבונה והסותר המחבא והמבעיר המחבא המכה בפטיש עזרה הכושר והמתיר המוצא ומוצא מרשות לרשות והמכה בפטיש והמוצא מרשות לרשות הרי אלו אבות מלאכות 40 חסר 1 וואלה j'ai lu en bataille cette Mishnah. Cette Mishnah, elle a rien d'extraordinaire a priori. Elle ne fait que passer en revue les Melachot Shabbat. Ok. Il a fait. Melachot Shabbat. Cool. C'est une Mishnah qui n'a pas l'air de recenser dans les mondes secrets. C'est une Mishnah très technique qui nous dit quels sont les Melachot à Shabbat. Seulement, le problème, c'est que la Mishnah a commencé en y disant Avot melachot, arbaim chaser echad. C'était pas compliqué, c'était pas plus facile de nous dire Avot melachot shloshim veteisha. Parce qu'il s'agit de arbaim chaser echad, alors on va être obligé de rentrer en profondeur et de comprendre de quoi il s'agit. Mais c'est arbaim. Arbaim zepashut. Nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, dans finalement l'avant-dernière Mishnah de Pirkei Avot, elle nous dit que Ben Arbaim la Bina. C'est pas seulement une question d'âge. Arbaim ze Bina. Arbaim ze Bina. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va nous dire que avant Gil Arbaïm, on ne peut pas étudier des choses profondes. Arbaïm, ce serait donc la capacité qu'on a de discerner les choses, de les comprendre en profondeur. Bina, c'est le discernement. Milachon, Bein. Alors, une fois qu'on sait cela, alors on peut commencer à comprendre qu'est-ce que c'est que ces Melachot Shabbat. Qu'est-ce qu'elles représentent? Pas seulement qu'est-ce qui est interdit de faire, mais qu'est-ce que cela veut dire, Rabotai? Les choses sont assez claires. Quand on parle de Shabbat, on ne peut pas ne pas le mettre en relation directe avec le Mishkan. Dans la Torah, lorsqu'on va nous parler de Shabbat, c'est pour le mettre en relation directe avec le Mishkan. Eh oui, lorsqu'on va nous parler de la construction du Mishkan, on va faire précéder dans la paracha de Vayakhel trois versets qui nous parlent de Shabbat, de Kdushat à Shabbat, Velo teva aruesh bechol mashvotechem beyom Shabbat. Mais avant de comprendre en quoi Shabbat et le Mishkan sont reliés, il faut quand même montrer de manière très simple que le Mishkan, à quoi sert-il? Eh bien, le Mishkan sert de lieu de rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Le Mishkan s'appelle dans la Torah Ohel Moed, la tente de la rencontre. Moed, c'est une rencontre. Milashon Leivaed, Vaad, c'est une rencontre. De son côté, le Shabbat est le premier de la liste dans la paracha de Emor dans le livre de Vayikra, et le premier de la liste de ce qu'on appelle les Moadim. Ces fêtes sont en fait des temps de rencontre avec le Créateur. En d'autres termes, Gam Shabbat ve Gam HaMishkan, Gam le Shabbat et Gam le Mishkan sont des moyens que l'homme a d'être connecté à Dieu. Ici, on pose la question, avoir 40 ans en termes d'âge physique ou en termes d'âge intérieur? Parce que plusieurs Gdolé Ador ont compris les profondeurs de la Torah avant d'avoir 40 ans. Bah, évidemment, évidemment que 40 ans, ce n'est pas sur ton acte de naissance. Parce qu'il est évident que lorsque tu parles du Harizal, qui était le plus grand maître de la Kabbalah de tous les temps, il est mort à 39. Le Ramchal, pareil. Donc, il ne s'agit pas de 40 ans sur ton acte de naissance. Il s'agit de si, est-ce que tu as rempli le Ben Arbaïm, la Bina, bien sûr. Donc, on a dit, le Shabbat et le Mikdash sont tous les deux les moyens de rencontrer, de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Tom, il a fait merde. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, alors, il va falloir comprendre comment on rencontre Dieu. Comment on rencontre Dieu? Ben, c'est pas shoot. Comment on rencontre Dieu? Eh bien, à Shabbat, pour le rencontrer, il faut complètement cesser d'être. C'est quoi cesser d'être? Eh bien, je vous rappelle que Shabbat, ben, je ne pense pas dire quelque chose de très nouveau en disant que Shabbat, c'est en souvenir de la création du monde. C'est ce que nous disons dans notre kiddush, dans les tfilot. Zecher le maase bereshit. Oti le olam ki sheshet yamim asa Hashem. Bayom shvi'i Shabbat vayinafash. Le Shabbat est donc, eh bien, le moment où je me rattache à la création du monde. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Sauf que, durant la création du monde, bah, Dieu n'a eu besoin de personne. Dieu a créé le monde tout seul comme un grand, j'allais dire. L'homme n'a absolument pas participé à la création du monde. Donc, s'il veut pouvoir intégrer la Kedusha du Shabbat, eh bien, il se doit de, quelque part, cesser d'être un homme. Cesser d'être un homme. C'est-à-dire cesser de pouvoir se revendiquer en tant qu'homme. L'animal n'a pas cette prétention. Donc l'homme, qui est là pour comprendre, eh bien, doit être conscient qu'il cesse d'être. Mais quelle est la base de l'existence humaine? Rabotai, la base de l'existence humaine, c'est celle qui a été mise en avant par notre ancêtre Yaakov Avinu. Yaakov Avinu dit à Dieu directement, lorsqu'il va partir en exil chez Lavan, il demande à Dieu de le garder en vie, de pouvoir le ramener à la maison. Seulement, qu'est-ce qu'il dit très exactement là-bas? Eh bien, il dit tout simplement, « Im natan li, Hashem, lechem le'echol ou beged lilbosh, et qu'il m'a ramené à la maison de mon père, alors il sera pour moi mon Dieu. » Voilà. Dans le livre de Bereshit, au chapitre 28, on nous dit, Yaakov demande à Dieu, « Tenli lechem le'echol ou beged lilbosh. » Ce sont les bases de l'existence de l'homme en tant que tel. L'echem l'echol, c'est également pour les animaux, c'est-à-dire qu'on a besoin des bases de l'alimentation. Nous, l'homme, les bases de notre alimentation, vers l'echem, et ne m'en veuillez pas tous les allergiques au gluten, la base de l'alimentation humaine, c'est tout ce qui peut devenir du pain, alors pas forcément avec du blé, hein, ça peut être avec de l'épeautre, avec ce que vous voulez. Ça, c'est la base de l'alimentation. Mais les animaux aussi, ils ont une base d'alimentation. Ce qui va nous élever également au statut d'homme, c'est le fait que nous avons un vêtement. C'est cela qui détermine l'homme en tant que différent de l'animal. Il n'existe aucune culture humaine, quelle qu'elle soit, et à quelque époque que ce soit, qui n'avait pas de vêtements. Je m'entends. Quand je dis vêtements, ça peut être également simplement des peintures de guerre sur le visage. Ça peut être simplement une corde autour du ventre. Ça peut être un collier. Ça peut être, c'est pas forcément un habit qui réchauffe ou alors qui couvre les parties intimes. C'est pas ça. Il n'existe aucune identité humaine qui n'a pas quelque chose sur lui qu'il a ressenti le besoin de rajouter à la nature. Ce qu'on appelle un beged. Rabotai, c'est le propre de l'homme. Lechem le'echol ou beged lilbosh. Donc il faut, semble-t-il, arrêter d'être cela. Après, le message a été retiré, donc je n'ai pas eu le temps de le lire. Donc, ça veut dire qu'il faut annuler cela pour intégrer Kdushat HaShabbat. Car effectivement, l'homme n'était pas présent durant la création du monde. Ok, maintenant qu'on a dit cela, eh bien on va pouvoir commencer à rentrer en profondeur dans notre Arbaim Chaser Echad. Les 39 travaux interdits pour Shabbat sont également les 39 travaux qui servaient au Mishkan. À la confection, pas seulement des murs du Mishkan, mais de tout ce qui se passe dans le Mishkan. J'entends bien. On a dit qu'on devait le relier. Eh bien, regardez quel est le Pelleploïm. Je vais dérouler toute la Mishnah à la fin de mon raisonnement. Pour l'instant, on a dit il faut que l'homme il cesse d'être homme et l'homme, c'est l'Erem l'Erol ou Beged Lilbosh. Ça, maintenant qu'on l'a compris, vous le mettez de côté. On a dit que Shabbat, Mishkan, même combat. Dévoilement de Dieu. Les 39 travaux de Shabbat qui sont interdits sont les 39 travaux qui servent à la confection et finalement au boulot qui se passe à l'intérieur du Mishkan. Ça aussi, on l'a compris. Très bien. Seulement, si on a dit que les 39 travaux du Mishkan de Shabbat représentent la création du monde, eh bien les amis, moi je pose la question. Comment Dieu a créé le monde ? Eh bien, comment Dieu a créé le monde, je vais vous le dire. C'est très simple. C'est marqué dans la Mishnah, dans le traité de Pirkei Avot. Et c'est quelque chose que vous savez très bien. Que Be'asara Ma'amarot Nivra Ha'olam. Be'asara Ma'amarot Nivra Ha'olam. 10 paroles. Mais en vérité, lorsqu'on va écouter Moshe Rabbeinu dans la Torah, on va se rendre compte que, en fait, ce n'est pas exactement seulement les Asara Ma'amarot. Je m'explique. Nous dit Moshe Rabbeinu, lorsqu'il nous parle du dévoilement divin au Mont Sinaï, dans le livre de Dvarim, il nous dit cette phrase. Kol Devarim Atem Shom'im. Kol Devarim. Mazé Kol Dvarim. Mazé. Le son des paroles. Ça ne suffit pas de me dire Dvarim Atem Shom'im. Kol Devarim. Qu'est-ce que c'est que ce Kol Devarim? Non, non, Kol, Kouf, Vav, Lamed, évidemment. Kol, la voix, le son, Vegam Devarim. Donc, qu'est-ce que c'est la différence entre Kol et Devarim? Kol, c'est ce qui sert de point de départ au Devarim. Hop là. Bah, très concrètement, mes paroles ne sont rendues possibles que parce que j'ai une certaine colle, j'ai une certaine voix. Je suis capable d'émettre un son. Ce son-là va être modelé en Dvarim. Ah ah. Il va être modelé en Dvarim. J'entends bien. Mais s'il est modelé en Dvarim, en parole, eh bien, qu'est-ce qui fait l'intermédiaire entre la simple émission d'un son oh, qu'est-ce qui va faire passer cela à des paroles? Eh bien, l'élément intermédiaire, c'est tout simplement les lettres. Les lettres vont en fait donner une structure à ma voix qui vont pouvoir devenir des mots, des phrases, des paroles. On se rappelle tous, voilà, de cette histoire. Je sais pas, dans mon cours tout à l'heure sur Pirkei Avot, j'ai raconté aussi une histoire. Là, je sais pas pourquoi je raconte une histoire, mais on connaît tous cette histoire du Baal Shem Tov. Ken Misipure à Baal Shem Tov, qui nous raconte comme ça qu'un jour, il y a un ange qui se dévoile au Baal Shem Tov, qui lui dit, est-ce que tu as envie de savoir à côté de qui tu seras au Gan Eden pour l'éternité? En vérité, il doit avoir plein de shrenim, parce qu'il y a au moins... je ne sais pas, une dizaine d'histoires de c'est qui ton voisin au Gan Eden. Enfin bon, dans cette histoire-là, on lui dit, ben, oui, bien sûr qu'il a envie. Et donc, on lui dit, ben voilà, dans le village d'à côté, il y a la maison la plus excentrée du village. C'est là-bas qu'habite le mec avec qui tu seras voisin de palier au Gan Eden pour l'éternité. Ben, Shem Tov, il y va, évidemment. Il a envie de voir. Il arrive à la maison, il toque et là, ouvre un petit juif qui ne paye pas de mine. Il dit, oui, bonjour, bonjour, entrez, machin. Et là, le Shem Tov commence à l'étudier sous toutes les coutures. Et il se rend compte qu'en fait, c'est un juif qui ne connaît pas grand-chose. Il ne connaît pas, il n'a pas l'air Talmid Chacham, mais rien du tout. Bizarre. Et à un moment donné, le juif lui dit, monsieur le rabbin, ne m'en veuillez pas, mais c'est l'heure de la prière. Je vais m'éclipser dans l'autre pièce et je vais prier. Et là, le Shem Tov se dit, ah bah voilà, ça doit être ça le secret. Quand il prie, ça doit être un truc. Et il met l'oreille comme ça devant la porte de la pièce. Et notre juif de l'autre côté du mur commence à faire cette fila et il crie « Aleph, Bet, Gimel, Dalet !» Bon, je ne vais pas toutes les faire, hein, jusqu'à Tav. Et une fois qu'il a terminé Tav, là, il ressort et il dit « C'est bon, j'ai fini. Bah, » Shem Tov lui dit « Ma, Akara !» Comme nous dit Manitou, la première chose qui a été créée, Nachon, c'est l'Aleph Bet, j'allais y venir. Nachon, de Aleph à Tav. Le Rishit Bar Elohim est. Nachon, exactement. Donc, alors, il dit l'Aleph Bet, et à ce moment-là, le Baal Shem Tov lui dit, ah, c'est quoi ton histoire? Et là, ce jeune juif lui répond, et lui dit, écoute, je suis orphelin. Mes parents sont partis quand j'avais 5 ans. Je n'ai pas d'argent pour payer des études, et rien du tout. Je ne connais rien. La seule chose que je me rappelle de ce que mes parents m'ont enseigné avant qu'ils meurent, c'est qu'ils m'ont appris l'alphabet hébraïque. Et donc, je ne connais rien d'autre. Mais je pense que si Dieu est Dieu, eh bien, il saura prendre mes lettres, en faire des mots, prendre mes mots, en faire des phrases, prendre mes phrases et en faire des prières. Et le Baal Shem Tov comprend que cette tefila venait du plus profond de son cœur. Et donc, il comprend pourquoi il sera assis à côté de lui. Tov, l'histoire, elle est chamouda. Mais c'est bien maintenant que les lettres sont les bases du langage, les bases des paroles. Rabotaï, maintenant qu'on a dit cela, on va pouvoir commencer à comprendre. Il y a combien de lettres dans l'alphabet hébraïque? Combien de lettres en hébreu? Hein? Quelqu'un peut-il me donner la réponse? Et Rabotaï, c'est pas shoot. Il y a en hébreu tout simplement 29 lettres. Il y a 29 lettres dans l'alphabet hébraïque. Tout le monde est d'accord avec moi? C'est bon? Personne ne pense que j'ai raté un truc en Ulpan? Oui, non, je sais ce que tu te dis. Non, pas vrai, n'importe quoi. La prof d'Ulpan, elle m'a dit qu'il y en avait 22. D'accord? Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zain, Chet, Tet, Yud, Chaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, Pe, Tzadik, Kuf, Resh, Sin, Tav. 22. Nachon. Il y en a 22. Mais il y en a 20, il y en a également 7 autres qui sont, non pas les Sophiotes, pas les Sophiotes, parce que les Sophiotes, c'est apparu beaucoup plus tard, en fait, la Sophite, elle est comme la lettre. Il y a encore 7 lettres qui sont ce qu'on appelle dgushot, des lettres avec un point et qui changent bah, leur nature. Il y a le vet qui devient le bet. C'est pas pareil. Il y a le gimel qui devient rimel. Rimel. Bon, je le dis mal, mais t'as compris. En fait, quand tu vas à l'Ulpan, on t'apprend qu'il y a 6 lettres qui change avec un point. Et on te dit comme moyen mémotechnique qu'il faut dire le mot Beged Kefet. Bet, Gimel, Dalet, Kuf, Pei, Tav. Sans ça, c'est l'hébreu moderne. Quand on regarde l'hébreu de la Torah, eh bien, on se rend compte qu'il y a une 7e lettre que les Thémanim n'ont pas oubliée, qui change également quand on lui met un dagesh, c'est le Reish. En d'autres termes, il y a 29 lettres dans l'alphabet hébraïque. 22 plus 7. Ah, 22 plus 7, ça me fait 29. Ça, ce sont les lettres de l'alphabet. C'est ce qu'on appelle, on a dit, kol. Mais mitzat sheni, on a également dvarim. Kol devarim atem shomim. Quels sont ces dvarim? Asara ma'amarot. Nous, on a entendu Aseret Hadibrot. Bien sûr, mais les Aseret Hadibrot n'ont été que le dévoilement de ce qui avait été caché pendant les Asara Ma'amarot. Donc si on a, pour la création du monde, 29 lettres qui sont devenues 10 paroles, Tarbotay, vous comprenez pourquoi est-ce qu'on a 39 travaux à Shabbat? Ah, ça commence à être un petit peu serious business, cette histoire. Mais attendez, allons plus loin, parce qu'il va falloir quand même qu'on rentre dans la Mishnah. Savoir qu'est-ce qu'elle nous dit, la Mishnah. Eh bien, les amis, c'est très clair. Rabbeinu Saadia Gaon. Rabbeinu Saadia Gaon est un des premiers maîtres du judaïsme, un des premiers tout court, à avoir écrit un livre de grammaire. Un livre de grammaire. Bah, un livre de grammaire. Il a appelé son livre Agron. Dans son livre, Rabbeinu Saadia, donc, va nous dire qu'il y a 22 lettres, plus 7 lettres, pas de problème. Mais il nous explique que les 22 lettres de l'alphabet, tu dois pouvoir les séparer en deux catégories, de 11 et 11. Il appelle ça les lettres premières et les lettres secondes. Donc en fait, la subdivision des lettres, ce n'est pas 22, c'est 11, 11, 7, et ensuite on a les 10 paroles. Maintenant qu'on a cette séparation claire, eh bien, on va pouvoir rentrer dans la Mishnah et comprendre ce qu'elle nous dit. Je reprends donc la Mishnah. Avot melachot arbaim chaser achat. On est en train de t'expliquer la création du monde. On a dit, la création du monde, l'homme n'y a pas participé. Donc, eh bien, on va avoir besoin d'abord de l'annulation de la présence de l'homme quelque part. Il doit se faire tout petit. Il va donc arrêter de faire ce qui est la base de son existence. Son existence, on a dit, c'est l'echem l'echol ou beged l'ilbosh. Eh bien, les amis, je vous le donne en mille. Les 11 premières melachot sont les 11 melachot qui servent pour faire du pain. De A à Z, pour faire du pain. Je relis la Mishnah. Hazorea, Vachoresh, Vachotzer, Vahmehamer, Adash, Azore, Aborer, Atochen, Amerakhed, Vahalash, Vahofe. Voilà les 11 premières melachot. Je vais les dire en français pour que, si jamais tout le monde n'est pas hébraïsant, planter, labourer, moissonner, mettre en gerbe, battre la récolte, vanner, trier, moudre, tamiser, pétrir et cuire le pain. Nous avons donc ici les 11 premières lettres, les 11 primaires, comme dit Rabbeinu Saadia, qui sont les 11 premiers travaux qui servent à la confection du pain. La base de l'existence et de la subsistance de l'homme. Lechem le'echol. Et ensuite, arrivent les 11 secondes melachot. Les 11 suivantes sont keneged, sont par rapport aux 11 lettres secondes qui servent à la deuxième catégorie qui fait de l'homme l'homme. On a dit, c'est beged l'ilbosh. Et bien, les 11 melachot qui suivent sont les melachot qui servent à quoi? À créer un vêtement. Idée. Je reprends donc ma Mishnah. Agozez et atzemer. Comme diraient nos amis mystiques, 29, Gematria, Aftacha et Ichoud. Ok. Ok, si tu veux. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais comme tu dis, ce sont les mystiques qui disent ça, donc on ne les comprend pas toujours, les mystiques. Mais Kitsour, c'est quoi les 11 suivantes? Eh bien, les 11 suivantes, regardez. Agozez et Tatsemer, Vamela Beno, Vamenapso, Vatsovo, Vatove, Vameser, Vaosechte Batenirim, Vaorechte Choutim, Vapotseachte Choutim, Vatofer Chte Tefirot, Akorea Almenat Lipor, Chte Tefirot. Voilà 11 travaux qui sont les 11 travaux qui servent à faire un habit. Alors, je l'ai dit en français, tondre l'animal, blanchir la laine, carder, faire un cadre, teindre, filer, former une chaîne de tissage, installer un métier à tisser, coudre, tisser, détisser. Tout ceci sont les 11 travaux, coudre et découdre, qui servent à faire un habit. Nous avons donc ici les 22 premières lettres de l'alphabet qui sont en fait les bases de la consistance de l'homme. Ce sont donc les travaux qui servent à faire du pain et à faire un habit. Lechem le'echol ou beged l'ilbosh. Ça, tu n'as pas le droit de faire pendant Shabbat. Puisque l'homme, on a dit, il doit se faire tout petit. Ah, ok. Sauf que l'homme, s'il n'a que du pain et une tunique, c'est très bien, il peut survivre, mais il ne peut pas avancer. Il ne peut pas remplir son rôle dans le monde qui est de la asot, qui vaut shavat mikol melarto, asher bara Elohim, la asot. C'est-à-dire que l'homme doit également parfaire la création, il doit avancer. C'est peigner la laine. Merci. Merci de cette précision, Rachel, sur comment ça se passe exactement pour faire des vêtements. Toda Rabba. Bekitsour, l'homme doit pouvoir avancer également. Pour pouvoir avancer, il a besoin d'un habit spécial. Un habit plus fort. Un habit plus costaud. Un habit pointé. Avec un dagesh. Cet habit, c'est évidemment les chaussures. Eh oui. Évidemment, je te rassure, à l'époque, il n'y avait pas de chaussures en toile, il n'y avait pas de chaussures en caoutchouc, il n'y avait pas de crocs. Les seules chaussures, elles étaient en cuir. Les babouches tarbouches, c'est sympathique, mais tu ne peux pas avancer avec. Ça va casser en deux secondes. Donc, la seule vraie chaussure, c'est la chaussure en cuir. C'est pour ça qu'à Tisha B'Av, on te dit que tu n'as pas le droit de mettre de chaussures en cuir. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de mettre de chaussures. Mais Kitsour, les melachot qui servent à faire un habit pointé, un habit fort, un habit en cuir, eh bien, ce sont comme les sept lettres qui ont un dagesh, ce sont les sept melachot qui suivent. C'est quoi les sept melachot qui suivent? Inné. Je reviens dans ma Mishnah. Atzad tsevi, ashochato, amafshito, amolcho, ameabedetoro, amochako, vamechatecho. En français, c'est quoi ces sept choses-là? Tendre un piège à un animal, l'égorger, dépouiller de sa peau, tanner la peau, lisser la peau, gratter la peau, et enfin, couper en morceaux. Rabotai. Les 29 premiers travaux des Melachot Shabbat dans la Mishnah sont là pour montrer à l'homme que voilà, ça, tu n'as pas le droit de faire. Ça, ce sont les travaux qui servent à la base de ton existence. Et donc, ça, tu n'as pas le droit de le faire pendant Shabbat. Dans le Mishkan, où on va rencontrer Akadosh Baruch Hu, oui. Mais toi, à la maison, non. Mais seulement, on a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas seulement Kol dans le dévoilement de Dieu. Il y avait également Devarim. Et il nous reste donc 10 Melachot, Keneged Asaram Amarot. Et ces 10 Melachot sont à chaque fois, elles vont par deux, et elles vont tout simplement nous dévoiler les éléments dans du monde dans lequel Dieu nous a mis. Il y a, comme vous le savez, quatre éléments dans ce monde qui vont être repris très souvent par le Maharal, quatre éléments qui servent de dévoilement de Dieu dans le monde. Le liquide, le gaz, le solide et le feu. En d'autres termes, l'eau, l'air, la terre et le feu. C'est les éléments qui forment la création de notre monde. Et c'est pourquoi, eh bien, nous avons à chaque fois deux melachot qui leur correspond. Un pour dire « je fais », un « je défais ». C'est-à-dire « je participe à cette création » ou « j'enlève cette création » comme Dieu il a pu faire. Et donc, nous avons « akotev v'amochek », celui qui écrit et qui efface. L'écriture se fait à base d'encre qui est liquide. Ensuite, on a un kosher vers un matir. Celui qui fait un nœud, celui qui défait le nœud. Ça, c'est keneged l'air. Alors, comment c'est keneged l'air? Eh bien, j'ai appris, car je ne suis absolument pas astrophysicien, mais j'ai appris qu'il est humainement impossible de faire un nœud dans l'espace. Pourquoi? Eh bien, parce que pour que le nœud tienne, il faut qu'il y ait la pression de l'air sur la corde. S'il n'y a pas la pression de l'air sur la corde, donc dans l'espace, eh bien, le nœud ne tient pas. Ce qui veut dire qu'à kosher, pour que ça marche, il faut l'air. Vers matir, celui qui défait le nœud. Ah, évidemment, à bonnet va à sauter. Celui qui construit, qui détruit, c'est Keneged, évidemment, par rapport à la terre. Et enfin, à mavir va à mechabé. Celui qui allume le feu et qui éteint le feu. Donc, les choses sont très, très claires. Seulement, voilà qu'il nous reste encore deux melachot. Les deux dernières melachot qui nous sont mentionnées ici. Et elles sont fondamentalement intéressantes parce que, finalement, la dernière d'entre elles, je vais y revenir tout de suite, mais elle est la première melacha qu'on va rencontrer dans la Mishnah. Puisqu'on a dit tout à l'heure, on a ouvert avec une introduction sur la première Mishnah de Mesrei Shabbat qui nous dit « Yetziot HaShabbat ». Or, la dernière Mishnah des melachot, c'est la dernière melacha sera de la Mishnah, c'est quoi? C'est « Amotzi Mirshut Mirshut ». L'avant-dernière, c'est Makebe Patish, j'y reviens dans deux secondes. Mais Amotzi, Mirshut, Lershut. Mazé, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bien, Rabotai, les deux dernières Melachot sont à mettre directement en relation avec l'acte de création. si les huit autres étaient la création dans toute sa réalisation, les deux premières, les deux dernières melachot ici, Makeh Bepatish ve Amotzi Mirshut Lirshut, c'est l'acte de création en lui-même. Qu'est-ce que je veux dire par la Rabotai? Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et Haaretz. On l'a déjà étudié maintes fois ensemble. Manitou enseignait ça de manière tellement parfaite. Bara, ça veut dire bra, ça veut dire dehors, mis à l'extérieur. C'est quoi mis à l'extérieur? Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et Haaretz. Dieu, pour créer, il a mis dehors, il a fait de la place. Ma perouche a mis là créer, exister en français. Exist, être dehors. Bara, ça veut dire bachutz, ça veut dire dehors. En d'autres termes, pour que le monde existe, Dieu l'a sorti. Mais il l'a sorti de quoi? De qui? De où? De quand? Il l'a sorti de lui. Avant la création du monde, il y avait Dieu. Pachout. Il y avait Dieu. Dieu a sorti le monde de lui-même. Ce que les Mekoubalim appellent Soda Tzimtzum. Il a fait de la place et il a créé le monde. Donc c'est quoi la création du monde? Zeotza, c'est la melacha de sortir quelque chose d'un reshut à un autre reshut. Le monde était Bereshut Ayachid Shalakadosh Baruch Hu. Non, Bara, c'est en araméen. Pas en... C'est aussi en arabe. Mais Bara, c'est en araméen. Or, l'araméen et l'hébreu sont deux langues complètement liées. C'est à dire. Donc, si tu veux, la création du monde, Zeotza, Mirshut, Lirshut. Avant la création, ben, le monde était Birshuto Shalakadosh Baruch Hu, Birshut Ayachid Shelo. Et maintenant qu'il l'a créé, il l'a sorti dans un autre reshut. Vemaze Makeh Bepatish. Makeh Bepatish, c'est tout simplement la création. La création, d'après le judaïsme, elle est ex nihilo. Ça veut dire quoi, ex nihilo? Ça veut dire qu'il n'y avait rien et pouf, il y a. Nakhon, Dieu se retirait d'un point qui n'a pas de taille par définition, évidemment. Donc c'est quoi cette création ex nihilo? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, et maintenant il y a. Ça, ça s'appelle Makeh Bepatish. C'est quoi Makeh Bepatish? Makeh Bepatish, c'est faire la dernière action qui fait qu'un ustensile qui n'en était pas un devient un ustensile. Je te donne un exemple. J'ai des morceaux de bois et des clous. J'ai une planche de bois et quatre cylindres de bois plus petits. Je prends ma planche de bois. Je lui fixe un pilier sur un des coins. Ensuite, je fixe un autre pilier sur un autre coin. Je fixe un autre pilier sur le troisième coin. Qu'est-ce que j'ai? Bah, rien du tout. J'ai une œuvre d'art contemporaine. Dès que je mets le coup de marteau sur le dernier clou pour fixer le dernier cylindre, j'ai un tabouret. C'est-à-dire qu'avant que je mette mon Makeh Bepatish, c'était pas un tabouret, c'était des morceaux de bois mis ensemble. C'était pas un clou, c'était rien. J'ai mis mon clou, c'est un tabouret. Il n'y avait pas de tabouret, pouf, il y a un tabouret. Makeh Bepatish, c'est la notion de Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et Haaretz. En d'autres termes, on se rend compte que les 39 travaux sont là tout simplement pourquoi? Eh bien, pour nous faire prendre conscience que nous vivons la création du monde. Nous devons donc nous en retirer pour pouvoir intégrer la Kedusha à nous, pour que dès la fin de Shabbat, nous sachions exactement qu'est-ce qu'il faut, eh bien, continuer à améliorer, continuer à construire. Kivo Shabbat Mikol Melarto, Asher Bara Elohim La'asot. Et l'interdiction de faire quoi que ce soit à Shabbat, pour ou après Shabbat, c'est lié comment? C'est pas lié, c'est des Rabbanan. C'est pas les Melachot Shabbat, c'est ce qu'on appelle Shvout. Et Shvout, c'est une takana des Rabbanan. Si je devais maintenant rentrer dans toutes les takanotes des Rabbanan, on n'est pas sorti. D'autant plus que nous, on étudie ici la Mishnah, tout simplement la Mishnah. Donc non, les takanotes des Rabbanan, je ne vais pas rentrer là-dedans. Tout ce qui est Shvut, et Shvut des Shvut, et Achana Mikodesh Lechol, tout ça, c'est pour garder ce qu'on appelle Tzivion à Shabbat, l'ambiance du Shabbat. D'accord ? Donc si vous voulez ça, vous pouvez vous rajouter à mes groupes WhatsApp dans lesquels j'envoie une fois par jour les Ilchot Shabbat. Eh bien, il y a 2-3 jours, je crois, j'ai parlé justement de Ilchot Tzivion à Shabbat. Donc, je vous invite à aller regarder ça là-bas. Ou alors sur mon site internet, il y a là-bas les Ilchot Shabbat. Donc, vous pouvez regarder, j'en parle. Mais c'est en hébreu, donc, voilà, si vous comprenez l'hébreu. Quoi qu'il en soit, donc la Mishnah, elle nous dit quoi ? Elle nous dit, ben voilà, Amelachot Zebriata Olam. Lorsque moi, à Shabbat, je décide de ne pas faire les Melachot, qu'est-ce que je fais en fait ? J'intègre la notion de Briata Olam et je sais exactement quoi faire après Shabbat pour continuer à parfaire la Bria. Et tout ça pourquoi ? Eh bien, tout ça pour pouvoir arriver à une rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que la Mishnah termine en me disant c'est vous l'admin des groupes ou juste des transferts par quelqu'un qui est sur le groupe numéro 1 ? C'est un peu compliqué. C'est un autre groupe, c'est un autre truc. Envoie-moi un message en privé et je te t'expliquerai comment on fait. Mais sinon, tu peux le trouver sur le site internet. Il y a là-bas les Ilchot Shabbat, tous les audios des Ilchot Shabbat. Bekitsour, la Mishnah termine en disant Hare elu avot melachot arbaim chaser echad. Pourquoi est-ce qu'on revient là-dessus ? Pourquoi est-ce qu'on revient sur elu amelachot arbaim chaser echad ? On l'a dit au début, Nachon. On l'a dit au début pour que tu saches que c'est ça qui en fait t'explique comment est-ce que tu dois t'attacher au dévoilement du Dieu dans le monde. Maintenant qu'on a mis en pratique tout, elu amelachot arbaim chaser echad, pour que maintenant tu saches quoi faire quand c'est plus Shabbat. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dois faire pour parfaire la création ? Car oui, l'homme a un rôle à jouer Shabbat, c'est de comprendre ce qu'il doit faire quand ce n'est pas Shabbat. Tout simplement. À savoir, terminer le 7e jour de la création. Eh oui, ce 7e jour de la création où l'homme agit, n'est pas terminé. Car dans tous les autres jours de la création, il y avait marqué « Vayere vayevoker yom X ». Mais pour le 7e jour, il n'y a pas marqué, il y a marqué Vaïchulo Hashamaim Vaarez Vechol Tsevaam, Vaïchal Elohim Bayom Hashevi Melarto Asherasa, Vaïchbot Bayom Hashevi Mikol Melarto Asherasa, Kivo Shavat Mikol Melarto, Vaïchal Elohim Bayom Hashevi Kedoshoto, Kivo Shavat Mikol Melarto, Ashabar Elohim Lasot. Il n'y a pas marqué Vaïre Vaïvoker Yom Hashevi. Certains disent, il y a marqué à la place Savre Maranan. Mais ce n'est pas dans toutes les Torahs. Dans tous les Sfarim, ce n'est pas marqué. Donc il n'y a pas marqué. Donc qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a pas marqué ? Comment alors est-ce que je vais réussir ? Eh bien, tout simplement, à parfaire le Yom HaShevi, je vais remplir le rôle du Yom HaShevi. C'est-à-dire, je vais arriver à la Kedusha. Comment je vais arriver à la Kedusha ? Eh bien, tout simplement, Bisrout à Shabbat, Bisrout à Misraël, ou Bisrout Bet HaMikdash. Grâce à ces trois dimensions, j'arrive à amener la Kedusha dans le monde. À ce moment-là, c'est bon. Une fois que j'ai fait cela, alors, je peux dire que j'ai réalisé le projet du 7e jour. Est-ce que Am Israël a déjà réalisé le projet du 7e jour ? Presque. Puisque l'un des trois piliers a toujours existé, Am Israël. Le second, on a failli le perdre, mais nos chachamim nous ont dit, t'inquiète pas, c'est pas parce que tu pars en exil que tu dois t'arrêter de faire Shabbat. Tu continues à faire Shabbat en exil. Donc, on a gardé le pilier de Shabbat. Mais effectivement, on n'avait plus le pilier Bet HaMikdash. On l'avait plus. Pendant 2000 ans, on n'avait plus le pilier Bet HaMikdash. Le dernier pilier pour la rencontre ultime et donc le dévoilement de la Kedusha dans le monde. Mais depuis quelques années, pour être exact, depuis... Oh, Obama, près de 53 ans, nous avons commencé à reconstruire le Beth Amikdash. lorsque nous avons commencé à dire le mont du temple est entre nos mains. Lorsqu'on a dit le mont du temple est entre nos mains, c'était la première étape vers la reconstruction du Beth Amikdash, vers donc la Kdusha du Shabbat, la Mehadrin. Ah oui, mais cette phrase a été prononcée en 1967. Or, 1967, c'est 5727. La fin de l'année 5727. Pourquoi je dis cela ? Eh bien, parce que, vous le savez, notre monde dans lequel on doit arriver à parfaire la création, c'est un monde qui a un prisme de 6000 ans. Bereshit, Altikra Bereshit et la Barachet, Shechet Alfim Shanim, Bara Alma. Le monde a été créé pour 6000 ans, pas le monde physique, mais le monde dans lequel l'homme a une interaction. Et dans ces 6000 ans, eh bien, lorsqu'on arrive à l'an 6000, on arrive à la Shoh, au Shabbat du monde. Le seul problème, c'est que comme nous, le monde a envie de faire rentrer Shabbat plus tôt. Nous, nous faisons bien rentrer Shabbat plus tôt. Tosefet Shabbat, on appelle ça. Et donc, eh bien, nous dit le Sefer HaZohar qu'on peut faire rentrer le Shabbat du monde, de l'histoire, plus tôt. Combien de temps plus tôt ? Keminyan Erev Shabbat. Comme la valeur numérique du mot Erev de Erev Shabbat. Or, Erev, c'est 272. Ça nous amène donc à l'année 5728. En d'autres termes, juste au lendemain de la guerre des six jours. Dès que le peuple juif est revenu à Jérusalem et est revenu à l'endroit du Beth Amikdash, eh bien, il ne tient plus qu'à lui de le reconstruire pour qu'on puisse enfin arriver à ce dévoilement de Dieu, à ce Shabbat mondial qui ne fait plus d'écran entre lui et nous. Nous avons commencé cette époque-là dès que nous avons prononcé « Le mont du Temple est entre nos mains ». C'est vrai que depuis 53 ans, on a un peu stagné à ce niveau-là, mais qui sait, peut-être que cette année, avec le Covid et les gens qui commencent à réfléchir un petit peu, eh ben, on va prendre la décision que le déconfinement ne pourra être véritable que lorsqu'on aura reconstruit la maison Behar Hashem, qui deviendra une maison de prière pour toute l'humanité, et qui deviendra le moment où on aura enfin terminé le projet du septième jour, le projet des Avot Melachot, et donc enfin, on pourra terminer en disant « Donc, Are Elu Avot Melachot Arbaim Chaser Achat » et compléter pour arriver au Shlav Arbaim et arriver à une Bina Shlema Be'ezrat Hashem Ken Yehi Ratzon. À bientôt les amis pour un autre épisode de la Neshama de la Mishnah. À bientôt. Hein?